c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes pas,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen de ce côté-là.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ? Bande de
voleurs. Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, ce maillot, connerie,
cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info. Et donc aujourd'hui dans le Canu Info, on va vous parler en local des micros dans la rue de Saint-Étienne qui surveillent les habitants et habitantes.
Et après ce sera encore plus local parce qu'on ira à Lyon pour parler d'un collectif de travailleurs et travailleuses sociales qui s'organisent.
Et on restera à Lyon pour vous parler de pollution, une petite pluie de kérosène autour de l'aéroport de Lyon ou bien comme si...
Et puis on passera au national et malheureusement comme souvent on vous parlera de la répression du mouvement des gilets jaunes, acte policier, acte judiciaire et ce soir une nouveauté, les assurances s'en mêlent, acte assurantiel.
Et ensuite on vous parlera des profs de l'université de Paris 13 qui se sont fait remplacer par Google.
Ah, on continuera à donner des bonnes nouvelles en parlant des brèves rayonnantes de la joie du nucléaire.
Et ensuite, on vous passera une grosse rubrique migration en partant des infos les plus récentes et les plus locales, ce qui se passe dans le centre de rétention administrative de Saint-Exupéry.
Et du coup, je laisse continuer mes camarades sur le fil parce qu'en fait, il y a des nouvelles platines de Radio Canu. Elles sont très très belles, mais je ne comprends pas comment elles marchent.
Voilà, et ben, du coup, ensuite, on vous parlera des migrants et migrantes traqués dans les bus Paris-Lyon.
Et on fera un retour, malheureusement, une fois de plus, sur l'externalisation des frontières de l'UE après la Libye, le Niger. Voilà.
Et ensuite, on essaiera de faire un petit point sur ce qui se passe en Algérie en ce moment, dans la rubrique internationale.
Et dans la rubrique Sécrade tout court, pas que l'international, on vous parlera un petit peu de l'islamophobie en France, qui en a encore pris un joli coup cette semaine. En attendant, on a toujours un petit problème parce que je ne comprends toujours pas comment marchent ces platines. Donc on vous propose, sur ce jingle terrifiant, de passer aux informations locales. Informations locales qui font un peu peur. C'est pour ça qu'on a fait ce jingle terrifiant. Donc il faut commencer par dire qu'il y a des micros qui vont arriver dans les rues de Saint-Étienne. Pourquoi ? Eh bien pour surveiller les habitants et les habitantes de Saint-Étienne. C'est en effet une première en matière de lutte contre ce que les politiciens et parfois les journalistes appellent l'insécurité. Regardez, ça fait peur. Dans ce but, dit-elle, de garantir, c'est ce que dit la mairie, la tranquillité, évidemment, aux 7000 habitants du quartier Tarentaise-Beaubrun-Courriot, c'est-à-dire de les surveiller en vérité, la ville de Saint-Étienne a décidé d'expérimenter un dispositif de surveillance jusque-là inédit en France. Et le principe est simple, être à l'affût des bruits suspects. Alors 50 micros, ou plutôt des capteurs sonores, comme préfèrent les nommer les élus stéphanois, hein, on aime bien actuellement quand on est élu en général utiliser des termes très des euphémismes en fait, complémentaires de la vidéosurveillance déjà existante, vont être implantés dans ce secteur de Saint-Étienne qui est considéré par les élus comme l'un des plus en souffrance de la ville. Que les gens se rassurent, nous n'allons pas les espionner, préviennent d'emblée Jean-Pierre Berger et Jean-Noël Cornu, c'est-à-dire les élus de la municipalité. On se sent tout de suite vachement rassurés par le fait que les types précisent direct qu'ils ne vont pas nous espionner. Enfin bon, on continue. Pour justifier leur démarche, ils expliquent qu'en effet, ils vont créer une véritable Smart City. Vous savez, la Smart City, c'est très très à la mode en s'appuyant sur des objets connectés. Notre objectif, disent-ils, c'est de développer, je cite, le confort des habitants de ce quartier à travers différents systèmes innovants, que ce soit les compteurs intelligents, les applications, etc. etc. et des micros. Sachant que les compteurs intelligents et les applications, on ne voit pas trop ce que ça a, ni d'innovant, ni de complètement smart, mais ce n'est pas très grave. Selon ces élus, ce bien-être passe donc par davantage de sécurité dans la rue. Enfin, il faut à nouveau le comprendre, que ce soit garanti par la Smart City, qu'on pourrait aussi appeler en des termes plus compréhensibles Big Brother City. Alors, là, on écoute un petit peu ce que promet Sébastien Vellal, directeur des systèmes d'information et du numérique de la ville de Saint-Étienne. Et lui, il dit, un accident, un cri, un bruit de glace, une agression. Ces capteurs sonores intelligents seront capables de distinguer les bruits anormaux. Et ouais, ça c'est quand même vraiment cool. Et précise aussi, le système ne permet pas en revanche d'enregistrer les conversations ni même de les entendre. Il captera uniquement les alertes. Là, on est tout de suite hyper rassuré. Et du coup, c'est vraiment la promesse qui est faite par le directeur des systèmes d'information et du numérique de la ville de Saint-Étienne, donc Sébastien Viala. Une véritable promesse, rappelle à toutes et à tous les auditeurs et auditrices, les promesses de ces personnes n'engagent que celles et ceux qui les croient. Bref. Revenons au système technique. La remontée de ces alertes sonores, elle transitera par une plateforme digitale développée par une entreprise qui s'appelle, tenez-vous bien, Serenicity, société spécialisée dans la sécurité informatique et des réseaux ayant, avant d'être communiquée au centre de supervision urbaine de la police municipale. Donc c'est d'abord une boîte privée, puis la police municipale qui arrive dès qu'il y a une alerte sonore. Ce dispositif, ça n'est pas Big Brother, affirme directement Fabrice Kotsik au Parisien, qui a donc allé l'interviewer. Et Fabrice Kotsik, c'est le dirigeant associé de Serenicity. Il précise aussi, d'un point de vue législatif, à partir du moment où on n'enregistre rien et que l'émetteur du son ne peut pas être identifié, on peut faire ce que l'on veut. Il n'existe aucun cadre juridique. La Commission nationale informatique et liberté, hein, qu'on connaît aussi sous le nom de CNIL, a d'ailleurs donné son feu vert pour cette expérimentation. Alors, petite précision pour nos auditrices et auditeurs, la CNIL, elle a donné son autorisation à peu près n'importe quoi pour utiliser nos données personnelles. Donc, bon, ça, on ne lui fait pas trop confiance. Et puis, un autre truc sur lequel il ne faut pas faire confiance à Fabrice Kotsik, c'est que, surtout, quand il dit qu'on ne peut pas identifier l'émetteur, finalement, il précise que tout ça vient en complément des caméras du coin. Et donc, si on a les caméras et le son au même moment, on ne voit pas trop bien pourquoi on devrait le croire. Et donc, ce monsieur, il fait confiance à une société américaine qui s'appelle Analog Devices, qui fournira les micros et la technologie. Il précise encore, aux États-Unis, ces capteurs sont paramétrés pour traquer uniquement des coups de feu. À la différence de ces gunshot detectors, vous avez mon accent, les micros installés à Saint-Étienne seront bien plus élaborés. Alors, c'est ce qu'il explique. Notons au passage à nouveau le nom horrible de cette société Serenicity, qui quand même allie les mélanges de mots de sérénité et de ville, comme si la sérénité passait forcément par la surveillance généralisée de toutes et tous. On y retourne. L'implantation de ces oreilles intelligentes dans le quartier de la Tarentaise Beaubrun-Courriot doit débuter au mois de mars et se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Les capteurs, dont le format sera à peine plus gros qu'une pièce de 2 euros, seront placés en hauteur et ce, de manière à disposer d'un meilleur angle pour traquer les sons. Leur emplacement seront-ils indiqués aux habitants ? Pose comme question le Parisien. Et bon, on ne sait pas. La signalétique est une question qui n'est pas encore tranchée, répondent donc les élus de Saint-Étienne, Berger et Cornu. Nous, on peut parier que ce ne sera pas indiqué, parce que sinon, il est peu probable que ces capteurs durent très longtemps. Mais bref. Avant l'émission des premières alertes, les techniciens de la municipalité et experts de Sérénicity doivent encore faire quelques choix, en vérité, cartographier l'emplacement de ces 50 micros, le choix de la technologie qui permettra d'envoyer des données sonores aux policiers aussi. Seul un retour d'expérience permettra d'évaluer l'efficacité de ces micros contre la délinquance, précise élu et professionnel. Nous, on se doute évidemment que ce retour d'expérience sera libre et indépendant comme il se doit pour n'importe quelle expérimentation dans l'espace public. En attendant, ces petits micros ne sont donc pas plus gros qu'une pièce de 2 euros et seront donc durs, voire très durs, à trouver dans l'espace public. Alors si on était taquin, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'équipe du Canu Info du vendredi, on pourrait suggérer que les dénichés pourraient devenir un nouveau jeu rigolo pour découvrir le quartier de Saint-Étienne. Ça pourrait être sympa en fait. Y compris pour les enfants, s'ils s'ennuient, ils pourraient chercher les micros. Plus taquin encore, on pourrait suggérer plein de choses rigolotes pour neutraliser ces micros. Alors on peut par exemple balancer des sons hyper aigus devant, ça va créer du larcène, ce sera très désagréable pour la police municipale. Faire péter des pétards devant pour réveiller systématiquement les flics qui l'écoutent. Ou encore passer en boucle des sons de pétards ou de tirs, puisqu'apparemment ils sont faits pour les détecter avec des ghetto blasters juste devant. Bref, on va pouvoir s'amuser avec ces micros. Merci la ville de Saint-Étienne.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a vu à les interjouer sur la base du rassemblement par le maire de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et retour à Lyon, et plutôt dans le Grand Lyon, où un collectif de travailleurs et travailleuses sociales s'est créé il y a quelques mois, disons au début du plan froid, pour réagir face à des évolutions très inquiétantes dans le secteur de l'hébergement, et notamment dans l'hébergement d'urgence. Du coup, ce collectif a sorti il y a quelques jours un communiqué de presse où ils font état des constats qui ont mené à la création de ces collectifs et qui sont à la base de la lutte qui va être menée. Notamment dans les points qui sont mis en avant dans ce communiqué de presse, il y a le manque de places chroniques, le manque chronique de places d'hébergement et de logement sur le Rhône. En effet, aujourd'hui, à Lyon, plus de 1800 personnes sont à la rue sans solution. Ceci est le nombre des personnes qui ont appelé le 115 sans qu'aucune solution ne leur ait été trouvée. Donc, c'est un nombre vraiment estimé à la baisse. Et parmi ces personnes, on peut s'y attendre à trouver des personnes âgées, des enfants en bas âge, vraiment tout type de personnes, personnes épargnées. Et ensuite, ce manque de place se voit aussi dans les temps d'attente qu'une personne qui fait une demande d'hébergement doit attendre, qui peuvent aller jusqu'à un an et demi à trois ans si, par exemple, on est un homme sans enfant, en bonne santé, et voilà, sans problème particulier, et typiquement sans titre de séjour. Une autre chose qui est mise en avant, c'est la remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil. Pardon. En fait, dans la loi, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit avoir accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Le problème, c'est qu'à Lyon, de moins en moins de places sont dédiées à des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Notamment, en fin 2018, 962 places, donc presque 1000 places, dites urgence, donc où l'accueil inconditionnel a été transformé en place insertion. Donc pour y accéder, il faut désormais avoir un titre de séjour et des ressources. Du coup, la continuité de l'hébergement est aussi remise en question parce que pour les personnes sans titre de séjour, il faudra s'attendre à des hébergements à la nuitée comme ça arrive déjà avec le 115, comme ça arrive à la halte de nuit qui est une structure qui a ouvert l'année dernière. Où justement, on ne fait pas de continuité de l'accueil. C'est vraiment une structure qui est faite pour accueillir des personnes à la nuitée ou maximum trois jours. Tout ça dans un contexte de baisse de financement pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui sont donc les structures en gros de premier accueil pour des personnes à la rue et qui ont vocation à faire un accompagnement vers un logement ou vers un ailleurs adapté, des fois dans le médico-social, et un accompagnement éducatif si nécessaire. Donc, avec la nouvelle vitrine de l'hébergement, le logement d'abord, le gouvernement dit vouloir mettre fin au sans-abrisme. Il baisse les financements au CHRS pour financer un dispositif qui, pour l'instant, est très très flou, qui vise à mettre des personnes qui sont à la rue directement dans un logement, mais sans plus de précision sur le type d'accompagnement qui sera garanti, ni de comment faire les personnes pour gérer des loyers dans le parc privé une fois les financements de l'État seront terminés. Bref, tout ça et plein d'autres choses pourront vous être expliquées lors du premier rassemblement organisé par le collectif. Il se passe donc, c'est le 5 mars, mardi prochain, à 18h. Il y a un rassemblement qui est organisé devant la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, qui ne s'appelle plus comme ça, mais bon, dans le jargon du travail social, ça s'appelle encore comme ça. C'est au 33 rue Moncey, à Lyon 3e. Donc, on vous invite à y participer pour rencontrer les travailleurs et travailleuses sociales, pour rencontrer les personnes concernées, pour comprendre les raisons de cette lutte et pour vous aussi dire devant la DDCS que nous, on n'est pas d'accord.
Et on n'est pas d'accord non plus avec la pollution généralisée de notre territoire. Et on va vous parler ce soir du kérosène qui tombe à côté de l'aéroport de Lyon. Alors on va vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, c'est celle de Valérie Pomaz, qui habite depuis 30 ans la petite commune de Til. Alors Til, c'est où ? C'est en bordure du parc de Méribel-Jonage, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de l'aéroport de Saint-Exupéry. Et en 2010, eh bien, cette femme a fait creuser un étang et elle s'est aperçue peu de temps après que de drôles de taches huileuses à la surface de l'eau sont apparues. Et là, on la cite. « Je n'ai pas fait attention tout de suite, dit-elle, mais une fois que je les ai repérées, je me suis rendu compte qu'elles disparaissaient de manière aléatoire, au moins une fois par mois en fonction des vents. Autour du champ de Valérie Pomaz, pas de route, ni de dépôt industriel, ni d'usine d'aucune sorte. Comme si cette pollution tombait du ciel. Elle contacte alors l'ACENAS. L'ACENAS, c'est l'Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Saint-Exupéry, donc Saint-Exupéry étant le nom de l'aéroport de Lyon. L'association mène son enquête et découvre que d'autres habitants du coin connaissent le même phénomène de pluie visqueuse. Les pêcheurs de Til indiquent avoir observé ce genre de plaques huileuses sur les lacs communaux depuis 2016. Un autre habitant de Saint-Maurice de Bénost, qui est aussi une commune, qui est située à côté de Méribel-Jonage, se plaint de retrouver régulièrement des traces noirâtres sur son abri de jardin. La SNAS confie des échantillons d'eau de l'étang maculé de ce drôle de dépôt huileux à un laboratoire indépendant lyonnais. Les analyses du laboratoire, livrées en décembre 2017, révèlent la présence de 1,1 microgramme d'hydrocarbures par litre. Alors ça vous dit rien, mais ce seuil est bien supérieur à la limite en vigueur pour l'eau potable, mais par contre, il est inférieur aux normes environnementales qui, elles, sont 10 fois supérieures quasiment. En dessous desquelles, aucune action de dépollution n'est obligatoire. Plus intéressant, au vu des hydrocarbures retrouvés sur place, plutôt complexe, le laboratoire estime que ce profil est plus proche de celui du kérosène évaporé que celui d'autres combustibles.
Nous craignons une pollution de grande ampleur, s'alarme Evelyne Lavezari, présidente de l'ACENAS. Or, du côté des services de l'État, c'est l'omerta complète. Ils nous ont promis qu'ils allaient mener des analyses contradictoires, mais nous n'avons aucune nouvelle. Du côté de la direction de l'aviation civile, on nous a même assuré que cette pollution venait de la combustion du bois. C'est n'importe quoi. Comment des plaques comme celle-ci peuvent-elles apparaître au milieu d'un étang en plein mois de juillet ? Les gens ne se chauffent pas l'été, que je sache. Et d'ajouter, les avions passent juste au-dessus et l'aéroport d'où ils décollent est à une dizaine de kilomètres. Ils n'ont pas de pot catalytique et quand le kérosène brûle, des imbrunés ne sont pas pris en charge et peuvent très bien tomber à terre.
Alors cette hypothèse des imbrûlés, elle paraît tout à fait crédible. En effet, la très officielle autorité de contrôle des nuisances aéroportières, qui s'appelle l'ACNUSA en bon français, documente sur son site internet le phénomène de ces résidus d'une combustion incomplète de kérosène quand le moteur tourne au ralenti. C'est le cas lorsque l'avion roule sur la piste juste avant le décollage. Certaines substances, comme le monoxyde de carbone, peuvent avoir impact sur la santé.
Mais personne ne veut entendre parler de cette pollution, se désespère Evelyne Lavezzari.
Donc Evelyne Lavezzari, la chef de la CNAS, elle a bien raison, parce qu'en fait, les aéroports de Lyon, qui exploitent Saint-Exupéry, c'est l'entreprise qui exploite Saint-Exupéry, n'ont pas donné suite aux sollicitations de Mediacité qui vient de publier l'enquête que dont nous faisons peur ce soir. Et la direction de l'aviation civile estime que ce n'est pas de son ressort et renvoie vers les services de la direction régionale pour l'environnement, l'aménagement et le logement, la DREAL, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pourtant, la DREAL, elle répond pas trop à Mediacité puisqu'elle lui dit « La DREAL ne dispose pas d'informations concernant ce sujet ». Bizarre, bizarre, puisque le préfet a pourtant été informé de ce problème par la CNAS, qui l'exhorte de s'en saisir. En attendant d'éclaircir le mystère, des taches huileuses, Valérie Pomaz, donc l'agricultrice du début, a décidé de faire constater par huissier les traces sur son étang.
Dans mon pré, j'ai ramassé plein de coprins chevelus, des délicieux champignons. Maintenant, je n'en trouve plus. Je ne dis pas qu'on ne veut plus d'avions, mais à l'heure où on nous répète qu'il faut préserver l'environnement, je constate que le carburant des avions n'est toujours pas taxé et en prime que leur pollution nous tombe dessus.
Il y a eu un petit rebondissement quand même, parce que quelques heures après la publication de l'article de Mediacité, le 27 février, eh bien Mediacité a reçu un appel des services d'aéroports de Lyon, donc c'est l'exploitant de Saint-Exupéry toujours, après avoir mis en doute l'origine de la pollution constatée par la CNAS, puisqu'ils ont déclaré à Mediacité « il n'y a pas de marqueur spécifique de la combustion du kérosène, contrairement à ce que dit le laboratoire d'analyse chimique », la communication de l'entreprise a annoncé que la décision a été prise de commander une contre-expertise. Puisque, disent-ils, pour être sûr qu'on parle de la même chose, l'expertise reprendra la même méthodologie que le laboratoire choisi par la CNAS et l'expertise sera réalisée en juin.
Cette étude, ils avaient dit qu'ils la feraient l'année dernière et ils ne l'ont pas faite, commente la présidente de l'association, Evelyne Lavezzari.
Et comme le commente la présidente de cette association, ça va être donc une affaire à suivre. On attend avec impatience les conclusions du laboratoire de l'aéroport de Lyon.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on ouvre cette rubrique nationale en retournant voir cette semaine le travail qui est fait par David Dufresne, qui est journaliste indépendant et qui collecte des infos sur les violences policières durant le mouvement des Gilets jaunes. Il a sur le site Mediapart une actualisation de son travail et à ce jour, il démontre pas besoin de 484 signalements qu'il a reçus ou collectés, dont un décès, 202 blessures à la tête, 21 personnes éborgnées et 5 mains arrachées. Donc tout ça par les forces de l'ordre pendant les manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes. David Dufresne rappelle que son travail est issu d'une collecte qu'il fait lui-même et que c'est donc bien évidemment largement inférieur à la réalité. Et il précise aussi que la majorité des blessures viennent des lanceurs de balles de défense. On va l'écouter quelques minutes lors d'une conférence de presse.
Les statistiques sont en deçà de la réalité. Mes moyens étant ce qu'ils sont, je suis obligé de n'aller chercher que des choses où il y a des traces visibles qu'on peut discuter. Qui sont là. Donc aujourd'hui, j'en suis à 480 signalements. Dans ces signalements, la gravité n'est pas la même, mais la masse fait sens. Nous sommes sortis, très clairement, du maintien de l'ordre vers une politique de répression. De répression d'un mouvement social. Le nombre de blessés, le nombre de tirs, puisqu'on a appris hier le nombre de tirs de NPD depuis 3 mois, il est de 12 000 balles. 12 000. C'est-à-dire qu'il est beaucoup, il dépasse toute l'utilisation depuis toutes les années en France du LBD en France. Donc 12 000 tirs de LBD, alors que le LBD, son nom, c'est le port salut, c'est écrit dessus, c'est une balle de défense, hein, pas une balle d'attaque. 12 000, ça veut bien dire qu'il y a eu des tirs d'attaque, des tirs de dispersion, et que l'arme n'a pas été utilisée dans la doctrine pour laquelle, dans laquelle elle est inscrite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois et demi, face au déni total de l'État, je me suis dit, il faut, il faut, faut sortir de là, et donc je suis allé voir Mediapart, et on a conçu un outil qui automatise quasiment mes tweets pour en faire une base de données. Après le déni, sont arrivés les mensonges d'État, dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et le dernier d'entre eux étant celui d'Emmanuel Macron, hier, lors de sa conférence de presse avec Angela Merkel, où il nous a expliqué que si on ne voulait pas être blessé, il ne fallait pas venir en manifestation. Ce qui est proprement sidérant dans un pays comme la France, qui s'est fabriqué, construit, manifestation après manifestation. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une affaire politique. Voilà, on a une répression policière, on a des mensonges d'État, on a une masse de blessés. Après, ce qui est insupportable, c'est qu'on a un mensonge d'État perpétuel qui est répercuté avec finalement assez peu de critiques.
Et donc l'intégralité de la conférence de presse est retrouvable sur le Twitter, bien sûr, de David Dufresne. Et pendant que la police fait le bras armé de la répression dans la rue, celle-ci continue dans les tribunaux. Par exemple, sur Rebellion, on peut souvent lire des comptes rendus des comparutions immédiates qui ont lieu les lundis après les manifestations des samedis. Et il y a eu une synthèse aussi des comparutions immédiates qui rappelle que ces comparutions, elles systématisent la répression et qu'une petit à petit, une justice d'exception se met en œuvre. Notamment du fait que les peines sont extrêmement lourdes et qu'elle s'adresse à des personnes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Alors, si ça constitue une justice d'exception, c'est qu'un des principes de la justice répressive d'habitude, c'est d'accabler encore plus ceux qui avaient un antécédent. Et là où ça se démarque des autres années, c'est que même ceux qui n'avaient aucun antécédent judiciaire prennent des peines très très lourdes. Aussi qu'il y a une systématisation des amendes qui sont reversées aux policiers, et que visiblement dans les procès, ils ont de moins en moins à faire preuve des ITT, et de leur blessure, de la manière dont ça s'est déroulé. Et puis parce que de plus en plus sont délivrées des interdictions de se rendre à Lyon ou dans les villes où se sont produites les événements. Et en répression judiciaire toujours, puisque le site de l'Obs, bien sûr relayé par Nantes Révoltée, nous apprend qu'aujourd'hui le record de peine a été battu pour le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'une personne qui est accusée d'avoir tiré des billes avec un lance-pierre sur des policiers casqués a pris à Caen une peine de 3 ans de prison ferme et 3 mois. Donc 3 ans et 3 mois de prison ferme. Et parce que l'horreur n'a pas de limite, parce que ça ne suffit pas de se faire blesser grièvement dans la rue, de se faire interpeller et de prendre des lourdes peines, on apprend aussi, grâce à Nantes Révoltée qui relaye cette fois-ci le site de La Dépêche, que certaines personnes, suite au fait de cette fête, casser la gueule par des flics, ne sont pas remboursés de leurs frais de santé par leur mutuelle sous prétexte que, ouvrez les guillemets, des mutuelles, les sinistres résultent de mouvements populaires et d'émeutes. On lit alors dans cet article de La Dépêche l'histoire de Yann qui s'est fait fracturer la mâchoire à coup de matraque et qui devrait payer 13 000 euros pour pouvoir se faire remettre des dents et que sa mutuelle ne veut pas rembourser. Yann nous raconte aussi que suite à ça, il est en arrêt maladie pour 15 jours et que donc son salaire a baissé et qu'il pourra vraiment pas se payer des nouvelles dents. On découvre aussi l'histoire de la mère d'Arthur qui lance une cagnotte pour couvrir les frais médicaux de son fils en fait, qui a perdu son œil suite à un tir de LBD. Et du coup, le dossier à la mutuelle est bloqué au service juridique parce que dans son contrat, il est stipulé que les sinistres résultant d'émeutes ne sont pas pris en compte. Voilà pour les mauvaises nouvelles du moment. Donc vérifiez vos contrats de mutuelle.
Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
Et oui, on va passer au truc fasciste qui donne envie de vomir. Il y en a beaucoup. Et là, je vous en parlais d'un petit truc, c'est la surveillance... plus en lien avec la surveillance, on va dire, internet, numérique, etc. Puisqu'il y a eu une petite action à l'Université de Paris 13, donc ça s'est passé lundi matin, où des membres du comité de mobilisation donc, de l'université, donc des enseignantes chercheurs, des étudiants, étudiantes, des membres du personnel, etc., ainsi que l'association la Quadrature du Net, qui, alors toutes ces personnes-là sont allées perturber une formation de 4 jours qui était donnée par Google à une centaine d'étudiants. Donc maintenant on en est là, l'université, alors que là l'université manque relativement considérablement de moyens pour fournir des cours à ses étudiants et ses étudiantes, elle accueille à bras ouverts Google, qui lui vient gratuitement, entre guillemets, expliquer aux élèves comment devenir les complices de sa surveillance économique de masse. Donc c'est d'autant plus risible que ça, ça se passe même pas un an après la mise en place du fameux, on vous en a parlé, vous le connaissez peut-être, le fameux RGPD, donc c'est les nouvelles normes européennes sur la protection des données. Mais voilà, on voyait un truc un peu comme, on voyait ça comme un peu une nouvelle norme qui allait un peu nous protéger, mais on voit que ça, bon, ça n'a pas une grosse influence sur les alliances que peut faire l'État avec ce qu'on appelle le GAFAM, donc c'est dont Google fait partie. Donc oui, parce que l'État, il a l'habitude de faire ce type d'alliance. Notamment dans tout ce qui concerne le règlement qui sont relatifs aux censures terroristes, et ou encore sur la mise en place dans certaines villes de politiques sécuritaires à des technologies privées, donc notamment les fameux, donc on parlait tout à l'heure des smart cities, donc ils ont un autre terme encore qui s'appelle les safe cities. Donc ça, c'est dans le sud, à Nice. Il y a l'observatoire du big data à Marseille. Donc ça, c'est pareil, c'est une mise en place généralisée de vidéosurveillance dans les lycées avec des systèmes automatisés qui vous filent des couleurs verte, jaune ou rouge en fonction de si vous êtes détecté comme un élément devant être ou pas dans l'enceinte de l'établissement. Donc voilà, donc c'était pour rappeler que, pour signaler qu'il y a eu cette petite action à l'université de Paris 13 et aussi pour rappeler que c'est quand même assez monnaie courante que des entreprises comme Google viennent s'immiscer dans les universités en filant des cours. Donc voilà. Et j'embraye sur un autre sujet qui est la fameuse rubrique des brèves rayonnantes. Et oui. Alors, je vais surtout vous parler d'une. Donc là, en gros, en février, il y a eu pas mal d'incidents nucléaires, parce que les brèves rayonnantes, c'est des incidents nucléaires. Enfin, des incidents. Alors, on ne dit pas incident nucléaire.
Rassurez-vous, chez vous, il n'y a pas d'incident nucléaire. Voilà, c'est quoi le terme d'EDF ?
Des incidents. Ah, j'ai plus la formule magique. Attendez,
excusez-moi, c'était mon compteur GGR. Il n'y a aucun souci nucléaire à Canu. Juste, il déconne un peu.
Voilà, c'est un événement significatif. Ils appellent ça des événements significatifs.
Voilà, ça rassure un peu.
Ouais. Voilà. Donc, alors quand même, faut savoir, je vais parler d'un truc quand même, parce que c'est une anomalie générique sur 52 réacteurs. Donc, on n'est pas dans la merde, mais attention. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est des bâtiments réacteurs donc, qui sont sans ventilation et sans surveillance atmosphérique, dans un cas très particulier qui est le cas de séisme. Donc c'est une petite découverte lourde de conséquences et qui en dit long sur l'état du parc nucléaire et de sa gestion. Tous les réacteurs du parc nucléaire français sont concernés, alors à l'exception, attention, du Bugey, donc on est rassurés, et de Fessenheim.
Ça ne sert absolument à rien, mais...
Donc, qu'est-ce que c'est que cette anomalie ? Les vannes des systèmes de ventilation et de surveillance atmosphérique des bâtiments réacteurs ne résisteront pas à un tremblement de terre, faute d'avoir serré les goujons. Donc les goujons, c'est des petites pièces métalliques qui tiennent d'autres pièces métalliques. Non, bref. Conformément au métal dont ils sont faits. Donc l'intensité de serrage a été faite pour des pièces en acier noir, alors que c'est un autre type d'acier qui a été utilisé pour les fabriquer. Donc ça, c'est un critère qui est assez important pour la qualité de la structure et la robustesse des vannes, etc. Donc là, du coup, comme il y a eu ce défaut de serrage, eh ben, la robustesse des vannes est remise en question et elles ne seront pas manœuvrables depuis la salle de commande en cas de séisme. Il serait donc alors impossible de confiner les matières radioactives à l'intérieur du bâtiment du réacteur. Tout comme il serait impossible d'y maintenir des niveaux de température et de rayonnement décents pour le personnel en cas d'incident. Pour le bâtiment du réacteur, dit aussi donc enceinte de confinement, Alors pourtant, ce bâtiment-là, qu'on appelle enceinte de confinement, est censé être la troisième barrière entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement. La première barrière étant la gaine de combustible, la deuxième, le circuit primaire. Donc quand on vous parle de la gaine du combustible, c'est le crayon, et le circuit primaire, c'est l'eau qui circule autour des crayons. Donc là, on est vraiment sur l'enceinte qui englobe tout ça. Comme le souligne l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'ASN, l'enceinte de confinement est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte et ces vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune de ces canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite la situation l'exige, l'étanchéité complète de l'enceinte. Donc ça voilà, donc en gros, vu qu'on peut plus fermer ses vannes, il n'y a plus d'étanchéité. Alors EDF ne livre que très peu d'informations sur cette nouvelle anomalie un peu généralisée, et c'est d'abord à Chinon qu'elle a été identifiée, mais EDF ne donne aucune date précise ni de la première détection, ni du temps pris pour la vérification du parc nucléaire, parce qu'on imagine qu'ils ont dû se dire, ah, merde, on a tous nos réacteurs qui sont peut-être en l'air. On ne sait pas non plus quand ces fameux goujons détériorés seront remplacés, ni comment une telle erreur a pu se produire sur tout le parc nucléaire sans être identifiée plus tôt. Erreur de produit de fabrication, erreur de procédure de maintenance, erreur de contrôle de vérification. EDF assure que cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations. En cas de séisme, la sûreté du réacteur serait également garantie. Mais par contre, aucun mot sur la sécurité des travailleurs et travailleuses qui travaillent là-bas ou les impacts sur l'environnement. Donc la note d'information publiée, donc ça c'était le 12 février 2019 par EDF, survient le lendemain d'une autre déclaration d'anomalie, elle aussi générique.
Générique, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le générique c'est pas automatique apparemment. Donc...
elle aussi générale. et elle aussi relative à la non-tenue au séisme concernant, donc ça par contre on n'est plus sur les vannes, on est carrément sur le circuit de refroidissement intermédiaire de plusieurs réacteurs, donc de 1300 MW. Et on le sait un peu trop peu, mais bon nombre de réacteurs français sont situés en zone sismique, donc c'est pas une information à prendre à la légère. Et depuis quelques temps, les anomalies un peu généralisées sur l'ensemble du parc nucléaire ne font que se multiplier, révélant la fragilité des constructions face à ce risque naturel. Perte d'alimentation électrique, perte de refroidissement, de ventilation, surchauffe, effondrement, à peu près tout y passe, et il n'y a pas que les vieux réacteurs qui sont concernés. Et puisque c'est l'ensemble des 52 réacteurs, donc il y a les vieux et les plus jeunes, voilà. Et du coup, je vais en terminer là-dessus. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'infos sur tous ces incidents, il y a l'association Sortir du Nucléaire qui référence, qui fait un bon taf de référencement de ces incidents, qui est pas du tout facile parce que les informations sont très disparates. Donc voilà, et c'est toujours très intéressant, et des fois c'est même très rigolo de voir comment EDF communique sur ces fameux incidents nucléaires que eux appellent, comme j'ai dit tout à l'heure, événements significatifs. Voilà. Et la plupart de ces événements aussi sont d'ailleurs catégorisés sur l'échelle des incidents nucléaires, donc ils sont souvent catégorisés au niveau 1 ou 2. Et Tchernobyl était au niveau 7, pour information.
Plus d'infos nucléaire, très bientôt, plus d'infos tout de suite.
Sans papier,
migration,
frontières,
expulsion,
centre de rétention,
Frontex,
asile,
réfugiés,
racisme,
clandestin,
Europe forteresse,
répression,
Calais,
OQTF.
No border!
Et on commence cette rubrique migration par le local. Et on vous parle de comment le soir du 26 février, donc il y a trois jours, les violences policières provoquant hospitalisation, blessures ainsi que garde à vue ont éclaté contre les détenus au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry à Lyon. Les centres de rétention administrative, les CRA, sont utilisés pour emprisonner les étrangers et étrangères jusqu'à 90 jours. C'est grâce à la nouvelle loi qui a été éditée par Gérard Collomb, à qui on ne reconnaît pas le droit de séjourner en France, dans l'optique de les expulser de force du territoire français. À Lyon, le CRA le plus proche se trouve à Saint-Exupéry. Cette proximité avec l'aéroport témoigne de la volonté de ces centres de procéder à une expulsion expéditive des détenus. Le CRA est composé de deux sections, hommes et femmes ou familles. Il est co-géré par la police aux frontières et l'association Forum Réfugiés. Donc voici le résumé de la soirée du 26 février à travers quelques témoignages de l'intérieur. À 19h, à un moment où les hommes du bloc bleu sont dans le réfectoire pour le repas, une dispute éclate entre détenus. Les agents et agentes de la police aux frontières font alors preuve, conformément à leur mission et à leur fonction, d'une violence extrême. En effet, la police gaze au poivre et tabasse l'ensemble des personnes présentes, évacue leur réfectoire et repousse les détenus dans le couloir des cellules, où les violences se poursuivent. Profitant du désordre général, au moins trois détenus tentent de s'évader. Le prétexte est suffisant pour la police pour redoubler la répression. Les flics gazent un détenu à bout portant avec une bombe au poivre, lui provoquant une crise d'épilepsie. D'autres détenus tentent de l'aider en demandant au poste de police du CRA une prise en charge médicale. La police aux frontières les envoie chier et les gaz à bout portant. Les flics évacuent le couloir et les envoient dans la cour de promenade, toujours sous les gaz et les coups. Par la suite, les flics les parquent dans une salle commune pour mieux fouiller les cellules et les affaires personnelles. Gazage et tabassage continuent pendant ce temps dans la salle. Pris et prise dans l'automatisme de leur violence, les flics s'en prennent même à l'une des leurs. En effet, alors qu'il est lynché un détenu, ils ne remarquent pas qu'une de leurs collègues trébuche et la tabasse donc. Ce soir-là, cinq personnes détenues ont été embarquées en garde à vue. L'une d'elles cherchait initialement de l'aide médicale auprès des flics. Six personnes ont été amenées aux urgences. Parmi elles, une personne qui a fait une crise d'épilepsie, une autre qui a eu un problème cardiaque suite à un coup de taser, une avec le nez cassé et une aux yeux brûlés. Sans compter les personnes qui ont perdu connaissance à cause des gaz et des coups, ainsi que les traumatismes psychologiques causés par les violences inhérentes au quotidien des personnes prisonnières dans les CRA. L'article que je suis en train de vous lire, que vous trouvez sur Rébellion, fait aussi remarquer que l'association Forum Réfugiés, qui est gérante du centre de rétention, elle n'a donné aucune suite à cet événement. Donc il n'y a pas eu de plainte portée contre la police aux frontières, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de communiqué pour dénoncer les violences de la part de l'association qui est pourtant à l'intérieur des centres de rétention tous les jours. Cet épisode s'inscrit d'ailleurs dans la logique répressive des centres de rétention, comme elle a été dénoncée récemment par les détenus des centres de rétention de Mesnil-Amelot, de Vincennes ou encore de Oissel, qui avaient depuis quelques mois entamé des actions parmi lesquelles des grèves de la faim et l'écriture de communiqués de presse qui expliquaient, qui dénonçaient leurs conditions de rétention. Les CRA sont l'un des dispositifs qui participent à l'enfermement des migrants et migrantes indésirables et à leur invisibilisation. Pensés pour expulser, les CRA sont l'un des visages des politiques racistes, anti-migratoires et répressives. Donc, solidarité avec les personnes retenues au centre de rétention administrative à Saint-Exupéry et ailleurs.
Solidarité et problématique de politique raciste et répressive. On se déplace tout de suite du CRA jusqu'au bus. Donc les bus aujourd'hui deviennent notamment les bus Macron, donc les Ouibus et les Fixbus sont de plus en plus la cible de contrôle d'identité, a priori visant à interpeller des personnes qui n'auraient pas de papier. Et ça, on en voit de plus en plus de témoignages sur des sites de réseaux locaux, notamment rebellion.info ici, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, un matin de janvier 2019, une équipe de Grabuge, Grabuge c'est un collectif d'écriture lyonnais destiné au papier et aussi à la radio, s'est rendu sur place. Et donc, on va vous lire ce qu'il raconte. Un matin de janvier 2019, on s'est rendu à Troyes à la gare de Perrache. On s'est rencardé auprès des personnels présents et ils, elles, nous ont confirmé que les contrôles de bus y sont récurrents. Un chauffeur de la ligne Clermont-Ferrand nous a expliqué qu'il lui arrivait de se faire contrôler 3 fois sur le même trajet. Clermont-Ferrand-Milan, on pouvait s'y attendre s'agissant d'une ligne transfrontalière. Il nous a aussi précisé que les contrôles étaient à la fois ceux de la PAF et ceux de la douane. La douane, elle a avec ses chiens et elle cherche de la drogue dans les bus. La PAF, elle, donc la police aux frontières, elle se contente de vérifier les papiers des personnes qui, en gros, lui ont l'air louche. Si quelqu'un ne leur revient pas, il ou elle doit les suivre. De l'avis des 3 conducteurs et conductrices qui ont interviewé les gens de Grabuge, opérant sur la ligne intérieure, ces interventions ont lieu en gare, sur les aires d'autoroute ou au péage. La régularité des contrôles de la PAF est aussi confirmée par un responsable de la gare routière de Perrache. Les personnels semblent trouver ça normal, parce que pour elles et eux, ben en fait, les gens qui contrôlent les migrants, finalement, c'est des flics qui font leur boulot. Un truc qu'on trouve assez souvent actuellement comme discours. La régularité de ces contrôles est connue des migrants et des migrantes et de leur soutien. À Lyon, les camarades confirment en effet que ces lignes sont à éviter, éviter les lignes de bus. Cela semble aussi être le cas dans d'autres villes. Une militante de Valence explique ainsi que les contrôles y sont réguliers et clairement discriminatoires. La PAF, elle choisit celles et ceux à qui elle demande leur papier en fonction de leur faciès et de leur accent. Plus loin des frontières, on a posé la question à des gens d'Orléans, ville du centre de la France. Les bus vers Paris sont également contrôlés à la gare routière ou sur l'autoroute. Alors, il est difficile de savoir précisément comment dater le début de ces interventions policières. Parmi les contrôleurs, les contrôleurs et les chauffeurs interrogés, l'un a dit que c'était le cas depuis la mise en œuvre des bus Macron, donc ça c'était en début 2015, et des militaires considèrent que considèrent que la fréquence s'est accrue avec l'arrivée de colons au ministère de l'Intérieur 2017. Les personnels qu'ont rencontrés les membres de Grabuge hésitent aussi sur les horaires où les contrôles sont les plus courants. À Perrache, si vous y allez. La PAF semble particulièrement active le matin, mais en même temps, des témoignages relatent aussi des interventions l'après-midi ou en début de soirée. Enfin, le nombre de contrôles et la régularité de ces contrôles semblent varier en fonction des lignes et des expériences des chauffeurs. Pour finir, pour éviter de se faire contrôler, le mieux semble être de prendre le train en règle, mais en fait non, parce que si les contrôles sur les lignes sont dans les gares sont très très fréquents aussi, en fait les gares sont des endroits où on peut faire des contrôles même si elles sont en ligne intérieure, et le plus sûr semble encore de covoiturer. En vrai, aucun moyen de transport n'est absolument sûr quand vous avez des problèmes de papier, et il faut faire très attention et demander notamment aux camarades du coin.
Et on vous a parlé des politiques racistes internes, on vous parle aussi des politiques racistes externes, c'est-à-dire visées à empêcher que les migrants et migrantes arrivent en France ou tout court dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières, c'est-à-dire au lieu de gérer les contrôles des frontières de l'Union européenne, de plus en plus les pays de l'Union européenne financent des pays extérieurs pour que eux-mêmes, ils empêchent les migrants et migrantes d'arriver jusqu'à l'Union européenne. Donc on vous parle de 2 exemples aujourd'hui qui bien évidemment ne sont pas exhaustives, mais c'est un peu les informations récentes qu'on a trouvées. Tout d'abord, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur Mediapart qui parle du Niger. Et en fait, il parle de comment au Niger, les frontières de ce pays sont de plus en plus biométrisées. C'est-à-dire que depuis 2018, au poste frontière, il y a des capteurs d'empreintes, des scanners de documents, des micro-caméras et des ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe en fait depuis 2018? C'est que l'Union européenne et le Japon ont décidé de financer l'installation du système MIDAS, un système d'information et d'analyse des données sur la migration. Ça ne se passe pas qu'au Niger. En fait, MIDAS, il faut savoir que c'est un système d'informatisation et collecte de données qui a été créé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Donc ça a été créé par l'OIM, qui en est encore propriétaire, en 2009. Et il est adopté actuellement par 23 pays du monde. Avec, bien évidemment, un défi en tête, c'est d'équiper tous les postes frontières terrestres de ce système. Et l'installation au Niger s'est faite dans les années récentes. dans le cadre d'un projet intitulé en anglais Coordinated Border Management in Niger, Mali, Mauritanie et Burkina Faso. Bon, j'ai mélangé un peu du français et de l'anglais. En gros, il s'agit d'équiper les postes frontières du Niger, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso de cet équipement. Comme par hasard, si vous regardez une carte du continent africain, en gros, ça bloque toute la moitié ouest de l'Afrique pour les personnes qui voudraient arriver vers la Méditerranée. Et du coup, voilà, c'est créé par l'OIM, mais financé par l'Union européenne et le Japon. Et mis en place sur place au Niger par la direction pour la surveillance du territoire, la police aux frontières nigérienne, dont le rôle s'est accru au même rythme que l'intérêt européen à réduire la migration via le Niger depuis les dernières années. Du coup, selon, si on va voir sur le site de l'OIM, ce système MIDAS, c'est une espèce d'aide qui est faite aux pays africains pour leur permettre de mieux contrôler leurs frontières de façon autonome et indépendante, pour qu'ils puissent gérer leur développement, voilà, à l'abri des migrations incontrôlées. Certes, le pire, c'est que tout ça, certes, c'est sûrement une partie de leur objectif, mais MIDAS va servir notamment aux pays européens, aux États-Unis et au Japon pour collecter des données sur les migrations internationales, à la limite au risque de ficher chaque personne migrante. Il est en effet prévu que dans le futur, ces bases de données soient connectées avec celles de l'Union européenne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au Niger parce que voilà, la technologie n'est pas encore à ce point. Mais par exemple, à partir de mars 2019, le personnel de la police aux frontières nigérien pourra confronter les données avec les fichiers de PIS, le système biométrique du département d'État des États-Unis, qui est installé à l'aéroport international de Niamey. Puis, ils pourront les confronter avec les bases de données d'Interpol et de WAPIS, le système d'information pour la police de l'Afrique de l'Ouest. Un fichier biométrique financé également par les fonds européens de développement dans 16 pays de la région, comme par hasard. Mais si le raccordement avec des bases de données de Bruxelles semble une hypothèse encore lointaine, l'Union européenne exerce déjà un droit de regard indirect sur les écrans de la police nigérienne à travers Frontex, l'agence pour le contrôle des frontières externes de l'Union. Frontex a en effet choisi le Niger comme partenaire privilégié pour le contrôle migratoire sur la route dite de la Méditerranée centrale. En août 2017, l'agence y a déployé son unique officier de liaison en Afrique et a lancé en 2018 la première cellule d'analyse de risque dans le continent. En gros, c'est quoi ? C'est des officiers de Frontex qui siègent à l'intérieur des autorités de contrôle des frontières du pays et qui ont accès direct aux bases de données. Tout ça grâce à la coopération au développement de l'Union européenne, 4 millions d'euros destinés à ouvrir des cellules similaires dans 8 pays subsahariens. En dépit de l'indépendance officielle des cellules de réduction des cellules de contrôle de frontières par rapport à Frontex, chaque cellule aura une adresse mail sur le serveur de Frontex et les informations seront échangées sur une plateforme digitale de l'Union européenne. Et par exemple, du personnel du Niger remarque déjà depuis quelques années le passage par le Niger a brusquement chuté. Et en parallèle, les voies de contournement se sont multipliées. Bien évidemment, les personnes qui souhaitent quitter leur pays doivent passer plus loin ailleurs, du coup, en prenant beaucoup plus de risques, comme ça arrive depuis toutes les tentatives d'empêcher les migrants d'arriver à la Méditerranée. Et du coup, l'autre exemple dont je vais vous parler très très rapidement, en fait, c'est ça concerne plus directement la France et ses rapports avec la Libye. Parce que depuis, en fait, le jeudi 21 février, c'est le ministère des Armées français qui a déclaré que la France allait donner 6 bateaux à la marine libyenne. C'est marrant parce que c'est au même moment où les navires humanitaires qui naviguent dans la Méditerranée se sont retrouvés les uns après les autres interdits ou empêchés de naviguer dans la Méditerranée centrale où ils étaient afin de sauver les personnes migrantes qui risquaient la noyade parce qu'ils partaient sur des bateaux tout pourris. Et donc l'idée de la France, comme de l'Italie qui a aussi donné des bateaux à la Libye, c'est bien évidemment de ne plus avoir de bateaux d'ONG dans la Méditerranée qui risquait d'amener les migrants dans des ports sûrs, comme la loi le prévoit, par exemple en France, en Italie, à Malte, en Espagne. Mais du coup, qui est plutôt que les gardes-côtes libyens ont contrôlé la Méditerranée, ce qui fait que les migrants qui seraient interceptés seraient ramenés en Libye. Ce qui est marrant aussi dans l'article que j'ai trouvé, c'est que, en fait, ce que je savais pas du tout, c'est que les Nations Unies ont fait une mission en Libye. Les Nations Unies, donc on ne parle pas d'un petit groupe de militants libertaires, hein. C'est les Nations Unies. Ils ont écrit un rapport publié en décembre 2018 où ils ont visité des dizaines de centres de détention officiels de Libye. Et ils disent que les migrants subissent des fréquentes tortures et autres mauvais traitements, du travail forcé, des viols et autres formes de violences sexuelles perpétrées par des gardiens dépendants du ministère de l'Intérieur en toute impunité. Et les Nations Unies même disent, préconisent, assurez-vous qu'aucun soutien ou aucune coopération avec les gardes-côtes libyens ne contribue à ramener des migrants et des réfugiés rescapés en mer sur le territoire libyen. Voilà, donc ça c'est ce que l'ONU dit, donc qui n'est pas du tout respecté par l'Union européenne actuellement. Donc je ne vais pas parler davantage parce qu'il est méga tard, mais voilà, on vous parlera de ça encore plein de fois.
Et
sûrement.
Par exemple, l'article, on peut le retrouver quelque part?
Mais sur Mediapart aussi.
Ah super.
Mais il faut faire une petite recherche parce qu'il date de une ou deux semaines.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Rubrique internationale sur Radio Canu, une fausse rubrique internationale très 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 rapide pour vous dire qu'effectivement, vous l'avez peut-être constaté, il y a des manifestations importantes actuellement qui se déroulent en Algérie. On résume en deux minutes ce qui s'y passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Abdelaziz Bouteflika veut conserver le pouvoir. Abdelaziz Bouteflika, c'est quelqu'un qui n'est plus capable de gouverner grand-chose, mais toute sa clique s'organise pour conserver le pouvoir qui tient en Algérie depuis des années. Et il y a désormais des révoltes au sein notamment de la jeunesse algérienne avec des émeutes, des manifestations très constantes maintenant depuis deux semaines en Algérie. Des manifestations qui sont d'une ampleur relativement inattendue. Donc ce qu'a essayé d'utiliser le pouvoir pour l'instant, c'est une répression importante et c'est aussi d'essayer de disqualifier ce qui s'y passe, d'une part en disant que ce serait plus ou moins des gens qui seraient à l'époque, qui auraient été à l'époque de la décolonisation en faveur de la colonisation, puisqu'il y a notamment une demande de libéralisation du pays, et d'autre part une grosse référence en disant que vous êtes en train de refoutre le bord comme ce qui s'est passé pendant la guerre civile dans les années 90. Ça semble très peu fonctionner. Voilà, donc il se passe des choses en Algérie, ça bouge beaucoup dans la contestation de Bouteflika. Il faut quand même préciser aussi que par ailleurs, il y a un personnage qui se dégage assez fortement, qui est quand même un millionnaire franco-algérien, donc il y a une grosse dimension libérale dans cette révolte. Mais en attendant, Bouteflika dort pas tranquille, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Oh, il dort peut-être bien vu son état de santé, hein. Alors après, on avait prévu de vous parler, mais peut-être qu'on va juste le dire très rapidement, parce qu'on avait prévu un plus long développement sur, bah oui, vous avez entendu tout ce qu'on vous raconte, et bah les médias, eux, ils avaient plutôt l'air de faire une grande surenchère islamophobe cette semaine, avec l'histoire de Decathlon qui avait l'air de beaucoup les préoccuper, et puis aussi Charlie Hebdo qui a craqué visiblement, puisqu'en gros, si on résume leur article qui était sur deux pages, ils prétendraient, avec des petits dessins et des propos, notamment un petit dessin qui sous-entendrait que le planning participe à l'excision, en fait. Enfin, le suicide assisté du clitoris est un choix, voilà, grâce au planning intersectionnel. Donc juste prendre deux minutes pour répondre à Charlie, qui en fait a une thèse très très schématique, qui dirait que en fait, dans le planning, il y a les anciennes militantes du planning qui seraient laïques, gentilles, de gauche, politisées, sachantes et universalistes. Et puis il y aurait des nouvelles militantes qui seraient, elles, intersectionnelles et non politisées. Et du coup, elle plongerait le planning dans les affres d'une coopération et d'un soutien de l'islam. Voilà un article assez dégueulasse, et juste rappeler à Charlie qu'en fait les gens qui parlent d'intersectionnalité, c'est des gens qui sont quand même politisés, parce que peut-être qu'Angela Davis était quand même un petit peu politisée, peut-être qu'un concept qui existe depuis 30 ans dans les milieux académiques et politiques, ça renvoie quand même à des conceptions politisée. Peut-être rappeler aussi à Charlie que de discuter avec quelqu'un de l'excision, c'est pas la justifier, que de discuter et d'accueillir des personnes qui portent le voile, c'est pas de les encourager à le faire, que d'avoir une bénévole qui porte le voile, c'est pas militer pour l'islam, et que par contre les positions abolitionnistes et la stigmatisation, ça oui, c'est une bonne manière de militer pour l'intégrisme. Merci Charlie.
Et tout de suite, on n'a pas le temps de faire très clairement un agenda. On vous renvoie à rubrique.info.
Ça trépigne à côté.
On va écouter un petit truc, ça trépigne à côté de la cabine. On envoie quand même un mini jingle.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Acab?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Salut les enfants, allez, bonne nouvelle à CAB, on a reçu un coup de fil vu qu'on a appris que les assurances elles couvraient plus quand on se faisait casser la gueule par les flics. Du coup il y a une nouvelle assurance qui vient d'être créée qui s'appelle ACAB, alors elle s'appelle comme ça parce que c'est ACAB avec 2B, c'est l'assurance couvrant les activités des Black Blocs. Et voilà, on vous laisse tout de suite avec une très bonne émission nommée Noise Pollution.